Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Cheryl Misak, philosophe canadienne qui enseigne l'histoire de la philosophie analytique à l'Université de Toronto, était bien placée pour synthétiser 4 essais récemment publiés et ayant pour thème le fameux Cercle de Vienne.
Oui, comme elle l'écrit, les années 20 du XXe siècle furent certes les Roaring Twenties, l'âge du jazz américain et des cabarets berlinois. Écoutez ce qu'en disait Stefan Zweig dans Le Monde d'hier. Partout, on proscrivait l'élément intelligible, la mélodie en musique, la ressemblance dans un portrait, la clarté dans la langue. Au demeurant, toute littérature qui n'était pas d'action, c'est-à-dire qui ne consistait pas en théorie politique, était vouée à la poubelle. Fin de citation. Mais le déchaînement de violence absurde qu'avait déclenché la Première Guerre mondiale a produit, dans les années qui l'ont suivi, 2 types d'attitudes opposées. Certains furent emportés par une vague d'irrationalisme frénétique, comme si, après avoir subi des épreuves aussi extrêmes, il leur était devenu impossible de renouer avec les illusions humanistes d'avant-guerre. Les lumières leur paraissaient dépassées, voire mensongères. Après un contact intime et quotidien avec la mort, ils aspiraient à une vie exaltée. Mais il ne faut pas oublier que vers la fin de la même décennie, les années 20, à côté des agitations avant-gardistes et dans une large mesure contre elles, d'autres s'attelèrent à mettre un terme à ce sabbat de sorcières. C'est peut-être parce qu'ils en pressentaient les retombées politiques, car le nazisme allait être lui aussi, et à sa façon diabolique, une réaction en acte envers le rationalisme et les Lumières, une politique de l'instinct, un nouvel accès de déchaînement pulsionnel. Alors bien sûr, on pense au Bauhaus, à l'austromarxisme, au constructivisme, autant d'aspirations à renouer avec la netteté dans les arts comme dans la pensée, à tenir à distance les fureurs équivoques. C'est ainsi que chaque jeudi à Vienne, un groupe de scientifiques, de logiciens et de philosophes se retrouvait pour un séminaire suivi d'une réunion au Café Central. Ils étaient résolus à ramener de la rigueur dans ce chaos, à dissiper les faux-semblants en cherchant la manière la plus nette de s'exprimer. Désireux d'unifier les sciences, ils voulaient en outre dégager les règles incontestables permettant d'accéder à la vérité dans tous les domaines. Contre le langage confus des idéologies qui cherchent à embrouiller, ils prônaient, eux, le respect des faits.
Et en 1929, Brice parut sous le titre « La conception scientifique du monde », le manifeste du Cercle de Vienne.
Publié sans nom d'auteur, il avait été rédigé par 3 membres, Hans Hahn, Otto Neurath et Rudolf Carnap, les plus favorables au socialisme. Mais les buts des auteurs n'étaient pas politiques. Ils entendaient imposer à la spéculation philosophique des méthodes inspirées des sciences exactes. Pour eux, la philosophie devait apprendre à respecter les règles de la logique et à confronter toutes ses assertions à l'épreuve de l'expérience. Tout énoncé qui n'est pas susceptible d'être vérifié de manière empirique, disait-il, est dépourvu de signification. Les énigmes insolubles, celles de la métaphysique en particulier, devaient être congédiées comme autant de faux problèmes. Leur combat était un combat pour la clarté, pour les lumières. Dans leur collimateur, Heidegger, à ses profondeurs insondables, ils opposaient la maxime « en science, pas de profondeur, tout n'est que surface ». Ils étaient philosophes comme Moritz Schlick ou Rudolf Carnap, mathématiciens comme Kurt Gödel ou Hans Hahn, sociologues et économistes comme Otto Neurath. Leurs noms ont été longtemps oubliés. Par contre, certains de leurs épigones sont devenus des références. Hans Kelsen, dans le domaine du droit, Karl Popper, dans la philosophie des sciences, et surtout Ludwig Wittgenstein, en qui beaucoup voient le philosophe le plus important du XXe siècle. Ce sont tous des satellites qui évoluèrent autour du Cercle de Vienne. Moritz Schlick fut assassiné sur les marches de son université par un ancien étudiant en juin 1936. La presse d'extrême droite autrichienne se félicita de la disparition de cet intellectuel juif, même si Schlick lui-même n'était pas juif, mais une bonne partie, c'est vrai, des membres du Cercle de Vienne l'étaient. Le cercle se dispersa aussitôt. Lorsque Hitler envahit et annexa l'Autriche en 1938, les intellectuels de premier plan ayant tourné autour du Cercle de Vienne avaient déjà émigré. Wittgenstein avait accepté un poste à Cambridge, Popper en Nouvelle-Zélande, Neurath aux Pays-Bas, mais la plupart, comme Carnap, Kelsen ou Gödel, avaient choisi les États-Unis. Pas étonnant que l'empirisme logique, dont ils étaient les théoriciens, soit devenu, après la guerre, l'un des courants dominants de la philosophie outre-Atlantique. Comme le disait ironiquement Walter Crook, administrateur de l'Université de New York, je le cite, « Hitler secoue l'arbre, moi je ramasse les fruits ». L'un des livres consacrés au cercle de Vienne, celui de Carl Zygmunt, pourrait être traduit en français par « Une pensée exacte dans un temps dément ». Comme l'écrit Cheryl Misak, nous aussi, en ce moment, nous vivons des temps déments. Peut-être est-ce la raison pour laquelle on relève ce soudain intérêt pour ces penseurs austères qui prenaient une forme de sobriété intellectuelle.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture et l'application Radio France.